Partout à travers le monde, des peuples étaient nés, des cultures, des savoirs, des langues, des histoires. S'entremêlant sur terre, ils apprirent à échanger.
Des cultures, des savoirs, des langues, des histoires.
Et un jour, des quatre coins du globe, tous nourris de la même volonté de vivre bien, ils se rassemblèrent pour mieux se connaître, pour mieux se comprendre, pour mieux œuvrer ensemble. Ils se rassemblèrent en un lieu que l'on nomma l'hymne international.
For the world, ha ha. For the world, ha ha. For the world, ha ha. Ha ha ha. For the world, ha ha.
Aujourd'hui, nous allons parler du Vanuatu. Le Vanuatu est un archipel situé en mer de corail, à l'ouest de l'océan Pacifique. Il fait partie de ce que l'on appelle la Mélanésie, du grec ancien mélas, noir, et nésos, île, les îles noires. Pour mieux situer le Vanuatu, on peut imaginer un voyage en avion à partir de Port Vila, sa capitale. Direction nord-nord-ouest, au bout de 528 km, on arrive en Nouvelle-Calédonie. Et si on continue vers l'ouest, 1200 km, ce sont les côtes australiennes. Mais revenons au Vanuatu. La superficie du Vanuatu est de 694 000 km², environ la même que celle de l'Hexagone français. Pourtant, il y a une grande différence, car 98% de cette superficie est une surface maritime, de l'eau à perte de vue, et seulement 2% sont des terres émergées. En tout, 12 000 km², répartis en 83 îles, Eromango, Efate, où se trouve Port Vila, Vanua Lava, Espiritu Santo, Pentecôte, beaucoup de noms aux différentes sonorités culturelles. L'histoire nous l'expliquera. La plus grande fait moins de 4000 km. Beaucoup sont des îlots ou des bancs de sable. Et 16 sont inhabités. Ça fait rêver. Mais attention, le Vanuatu est situé sur une zone cyclonique importante et sur un arc volcanique majeur, appelé la ceinture de feu, ce qui provoque régulièrement éruptions, séismes et potentiellement tsunamis. 15 tsunamis notables répertoriés depuis 1890. En moyenne, un cyclone se tient tous les deux ans et 11 000 séismes de force 5 à 8 ont été répertoriés en 46 ans. Pour toutes ces raisons, selon l'index mondial des risques dépendant de l'Université des Nations Unies pour l'environnement et la sécurité humaine, le Vanuatu est le pays le plus exposé aux risques naturels au monde. Pour vous parler de la flore et de la faune du Vanuatu, et pour commencer à découvrir son histoire, nous allons lire les écrits d'un jeune Français qui s'est rendu en 1885. Il avait une vingtaine d'années, il s'appelait Henri de Chartier. Avant de commencer cette lecture, il faut que vous sachiez que pendant plusieurs décennies, le Vanuatu a porté un autre nom. Les Européens l'appelaient les Nouvelles Hébrides. Ayant eu l'honneur d'être appelé par la confiance de Monsieur le contre-amiral de paix, alors gouverneur de la Calédonie, à remplir les fonctions de commissaire du gouvernement pour l'immigration aux nouvelles hybrides, je m'embarquais sur le brick Goélette Tana en rade de Nouméa. Le même jour, à 2 heures de relevé, nous levions l'ancre, nous dirigeant vers les nouvelles hébrides, groupe magnifique d'îles sauvages, dans le but d'y rapatrier des indigènes dont le temps d'engagement comme travailleurs venait d'expirer et de recruter de nouveaux engagés en vue de la campagne suivante. Les personnes dont les récits ont présenté ces îles comme malsaines sont les missionnaires qui ont habité quelque temps en Eatoum, île marécageuse et la moins salubre de l'archipel, et qui ont trop souvent manqué des premières choses nécessaires à la vie. On n'a cependant jamais entendu parler de cas un peu importants de fièvre paludéenne tels qu'ils sont présents à Madagascar, au Sénégal, à la Guyane. Mais même dans l'état actuel, les quelques colons européens que j'eus le bonheur de rencontrer sur l'une de ces îles, l'île Sandwich, m'ont certifié ne s'être jamais mieux porté sous le ciel de la mère patrie. L'on peut donc affirmer que le climat des Nouvelles Hébrides serait supportable pour le blanc, qui, toutefois, saurait se conformer aux principes d'hygiène auxquels ces pays chauds nous astreignent. La hache du pionnier aurait bientôt donné de l'air à ces immenses forêts, quelques tranchées d'une côte à l'autre, et toute appréhension disparaîtrait, et les deux côtes rivaliseraient de salubrité et d'exubérance. Ces îles étant la plupart étroites, cette opération n'offrirait pas de bien grandes difficultés, mais en revanche, sans parler de l'amélioration du climat, quel immense revenu reviendrait rémunérer les peines du travailleur? Sait-on que ces forêts abondent en bois les plus rares, que le santal, le bois de rose, l'ébénier en constituent les principales essences? Les indigènes nous ont-ils pas d'ailleurs indiqué le moyen d'atténuer la fièvre? Les parties qu'ils habitent ne sont pas malsaines, cela tient au débroussaillement qu'ils font autour de leurs cases, tout en conservant les gros arbres pour s'abriter contre les fortes chaleurs. Malgré la différence de leurs constitutions respectives, toutes ces îles sont recouvertes de forêts impénétrables à l'aspect verdoyant, au-dessus desquelles les cocotiers, les banyans gigantesques, élèvent leurs têtes altières. L'exploitation seule des cocotiers, Cocos nucifera, suffirait à assurer l'existence d'un grand nombre d'individus. Terre d'alluvion, le sol des Nouvelles Hébrides possède une végétation et une fertilité sans égale. Le maïs, le café, le coton, le cacao, le manioc, la vanille, le ricin, le rocou, le riz, le tabac, la canne à sucre, l'oranger, le citronnier, le limonier, etc. y poussent admirablement. De gras et abondants pâturages y permettraient l'élevage du bétail. Les terres arables y comprennent la majeure partie de la surface du sol. Dans certaines îles, notamment à Tana, jaillissent des sources d'eau sulfureuses. Quelle immense carrière ouverte à l'activité commerciale! Quel heureux débouché pour la Nouvelle-Calédonie, où le nombre des forçats libérés devient tellement croissant qu'il ne doit pas être sans inquiéter nos gouvernants! Quel lieu sera jamais meilleur pour la transportation ou la relégation, comme l'on voudra, des récidivistes dont l'internement ou la libération nuirait à la prospérité, déjà si lente, de notre colonie? Les débits de bois rares, des bois durs, de ces beaux arbres sans ramification et si précieux pour la mature pourraient constituer immédiatement une des branches les plus importantes du commerce. La mer, enfin, rivaliserait de bienfaisance avec la terre en fournissant aux pêcheurs le corail, le nacre et une huître perlière de moyenne valeur, la pêche du trépang ou biche de mer, de la tortue et d'innombrables légions de monstres marins présenteraient aussi quelques ressources. Les îles dégagées de récifs renferment une foule de ports et de baies, offrant d'excellents mouillages. Le commerce y serait donc très facile et les communications rapides, grâce au vent du sud-est régnant 10 bons mois de l'année, favorisant la marche des navires. Les puissances étrangères semblent si bien considérer ces îles comme une dépendance naturelle de notre colonie qu'aucune d'elles n'a encore osé se les approprier. Peut-être objectera-t-on à leur prise de possession le peu d'hospitalité des indigènes envers la race blanche. On prétendra que la densité de la population y rendra difficile toute espèce de séjour. Aux objections des premiers, je répondrai « L'installation des colons français en Nouvelle-Calédonie et celle des colons anglais aux îles Fidji nous donne la mesure de la terreur que doivent inspirer ces indigènes, dont cependant le cannibalisme passe pour si féroce et si insatiable. Le tout est d'agir avec prudence et d'obtenir par la bienveillance et la patience les résultats que la rigueur et les mesures violentes empêcheraient à jamais. C'est la guerre ou la paix avec les indigènes, selon la manière dont on se comporte soi-même. » Depuis son exploration par les Européens, et particulièrement par les Anglais et les Français, le Vanuatu a connu une colonisation lente et discontinue de la fin du XVIIIe siècle à la fin du XIXe siècle. Des missions religieuses et l'exploitation de ses ressources naturelles, particulièrement le bois de santal, mais aussi, dès 1860, le trafic humain, l'exportation forcée de main-d'œuvre en Australie, aux îles Fidji et en Nouvelle-Calédonie française. À partir des années 1880, des colons, majoritairement anglais et français, s'installèrent pour de bon et la population indigène décrut massivement, à cause des trafics de main-d'œuvre et des épidémies qui décimèrent la population. En 1904, un mariage très particulier est célébré au Vanuatu. On nomma cet événement l'entente cordiale. L'entente cordiale est un moment diplomatique entre les différents empires coloniaux, la France et le Royaume-Uni, pendant lesquels ils discutèrent de leurs colonies et firent un peu de troc. La domination de l'Égypte fut confiée au Royaume-Uni, celle du Maroc à la France, ils définirent leurs sphères d'influence respectives au Siam, à Madagascar les Français gardèrent la souveraineté, et au sujet des Nouvelles Hébrides, ni l'un ni l'autre ne souhaitant quitter l'archipel, les Britanniques proposèrent que les Français gardent leurs 5 comptoirs aux Indes et que ce ne soit pas un dominium qui soit décidé pour les Nouvelles Hébrides, mais un condominium. Les deux assemblées des deux empires acquiescèrent, et c'est ainsi que les Nouvelles Hébrides devinrent une colonie gérée conjointement par les deux puissances coloniales. Dans le monde, il n'en existait à cette époque que deux sous cette forme. Pour organiser cette cohabitation, 3 souverainetés furent développées sur les îles Océanes. Une pour la population anglophone et la nation britannique, l'autre pour la population francophone et la nation française, et une troisième pour gérer les relations entre les différentes nationalités, l'administration et les services communs, et pour les indigènes qui n'étaient pas autorisés à demander la nationalité française ou anglaise. Pendant cette période, les exploitations coloniales qui recherchaient de la main-d'œuvre n'en trouvèrent pas suffisamment, car la plupart des indigènes ne souhaitaient pas travailler pour les colons, ils voulaient développer leurs propres entreprises. Alors les colons français et britanniques firent venir de la main-d'œuvre d'Asie, bien qu'elle leur soit beaucoup plus coûteuse. Pendant la Seconde Guerre mondiale, la situation changea à nouveau. L'archipel passa directement sous administration britannique, même si les droits de la République française, alors envahie par l'oppresseur allemand, furent conservés de façon symbolique pendant cette période. Et un autre type de population arriva en nombre dans l'archipel du futur Vanuatu, les militaires américains. Les Britanniques ayant donné leur autorisation pour que ceux-ci installent une base arrière importante pour contrer l'invasion japonaise. Et la présence des soldats américains aux Nouvelles-Hébrides, 100 000 militaires blancs et noirs, provoqua un véritable électrochoc culturel. Quelques années après la guerre, les mouvements indépendantistes émergèrent. Mais il faut attendre 1979 pour que le rêve se concrétise. 1979, des élections législatives sont organisées aux Nouvelles-Hébrides. 2 partis sont représentés, l'un soutenu par les Français, à sa tête un certain Jimmy Stevens pour le parti Nagriamel, et l'autre soutenu par les Australiens et les Anglais, mené par le pasteur anglican Walter Linney, pour le parti Vanuatu. Et c'est ce parti qui l'emporta, avec 26 sièges sur 39. Walter Linney devint Premier ministre et malgré les réticences françaises et britanniques, un référendum fut organisé au sujet de l'indépendance. Et suite aux résultats, l'indépendance fut programmée pour le milieu de l'année 1980. Cette période, qui aurait dû être un moment de fête, connut de nombreuses turbulences.
L'indépendance du Vanuatu en une minute.
En mai 1980, les adhérents au mouvement Nagriamel firent sécession et prirent la ville de Luganville, sur l'île d'Espiritu Santo. Leur leader, Jimmy Stevens, qui avait pourtant été un des premiers militants pour l'indépendance du condominium, forma son propre gouvernement. Le gouvernement central, de Walter Linney, ordonna un blocus de l'île de Tana. Les tensions se multiplièrent entre les deux communautés linguistiques. L'on recensa des heurts, des déplacements de population. Néanmoins, le 30 juillet 1980, l'indépendance effective du pays est proclamée. Les forces armées franco-américaines intervinrent pour rétablir l'ordre sur l'île qui ne leur appartenait plus. Le gouvernement officiel et légitimement élu appela la Papouasie-Nouvelle-Guinée à l'aide pour récupérer l'île de Santo et la ville de Luganville. Les forces armées de Papouasie-Nouvelle-Guinée arrivèrent, les insurgés furent invités à se diriger vers la sortie. L'opération des unités françaises du 8e régiment de parachutistes d'infanterie de marine se transforma en mission d'exfiltration des ressortissants français. Ceux qui restèrent furent délogés et jugés par le gouvernement central, légitimement élu par le peuple. Ce moment historique eut pour conséquence une fuite massive des francophones vers la Nouvelle-Calédonie. Pour affirmer leur nouvelle indépendance, les habitants de l'île océane de la mer de Corail mirent de côté l'appellation européenne Nouvelle-Hébride et l'archipel fut rebaptisé le Vanuatu. C'était en 1980. Le nom Vanuatu est dérivé du mot Vanua et Banua, qui signifie « terre habitée », « pays », et du verbe « tout » signifiant « être debout ». Ensemble, ces deux mots signifient « le pays debout ». Aujourd'hui, le Vanuatu est une république parlementaire multipartite, c'est-à-dire un pays dont le régime politique permet à plus de 2 partis de participer aux débats politiques, aux élections et d'être représentés à l'Assemblée nationale. Le président est élu au suffrage indirect pour 5 ans, il est le chef de l'État, pourtant son rôle est avant tout représentatif. Le premier ministre est le chef du gouvernement et ses ministres disposent du pouvoir exécutif. Le pouvoir législatif est exercé par une chambre unique de 52 membres multipartites, renouvelée au suffrage universel direct tous les 4 ans. Le système judiciaire, indépendant, est basé sur les droits britanniques et français. En 2020, l'archipel comptait 298 333 habitants. La ville la plus peuplée est Port Vila, la capitale, avec 44 000 habitants. La plupart des villes comptent moins de 3 000 habitants. Plus de la moitié de la population vit en zone rurale et travaille dans le domaine de l'agriculture et de la pêche. Mais pas pour l'exporter, c'est ce qu'on appelle une agriculture de subsistance, une agriculture destinée aux habitants du pays. À l'export, le pays propose de la vanille, du poivre, du café et le cava, une plante dont on consomme les feuilles en infusion. Le Vanuatu possède la plus forte densité linguistique au monde, avec 138 langues vernaculaires distinctes réparties sur 83 îles. Les trois langues officielles sont le français, l'anglais et le bichelamar. C'est la langue la plus utilisée. Un mélange basé sur l'anglais qui utilise des éléments lexicaux français et des éléments des langues du Vanuatu du Nord. Pour la monnaie, les coquillages ont longtemps été utilisés pour échanger et étalonner la valeur des marchandises. Puis ce fut le franc français, la livre, le franc or, le franc des nouvelles hébrides, bien que pendant cette période, ce fut davantage la livre australienne et la livre sterling qui furent utilisées. Et maintenant, c'est le Vatu. Une chambre d'hôtel agréable coûte environ 10 000 Vatu, ce qui équivaut à 81 euros. Un repas simple 2 000 Vatu, environ 17 euros. Point de vue religion, on trouve l'église catholique, l'église presbytérienne, mais aussi d'autres religions plus particulières, comme par exemple dans quelques villages du sud-ouest de l'île de Tanna, où l'on voue un culte au prince Philippe. Le mari d'Elisabeth II, reine d'Angleterre, y est considéré comme une divinité ou un messie. Côté tradition, l'élevage du cochon à défense est une spécialité. Leurs défenses sont des cadeaux précieux et leur longueur et leur forme sont des critères importants. Les sacrifices ont lieu pendant des cérémonies traditionnelles, pendant lesquelles des hommes et des femmes dansent le visage couvert de peinture avec des éléments de vannerie de cuir, de rotin, de coquillage, de feuilles, de plumes, de fourrures de petits animaux accrochés sur leur corps. Les danses sont autant visuelles que sonores grâce au bruissement des accessoires et aux clochettes accrochées aux chevilles des danseurs. Pour ce qui est des autres arts vanuatés, masques, marionnettes, statuettes, nous le trouvons partout à travers le monde et particulièrement dans les musées d'Europe. Et maintenant, l'hymne national du Vanuatu qui s'intitule « Yumi, Yumi, Yumi ». Il fut adopté en 1980. Les paroles et la musique sont de François, Vincent et Save. Cet hymne parle de la fierté d'être humain, heureux, fort et libre, accompagné de nos frères et sœurs, de la chance d'être né sur terre. Il parle aussi du poids des coutumes d'hier et de celles d'aujourd'hui et de l'œuvre qu'il faut toujours mener pour continuer à vivre bien et rester unis. Bonne écoute.
Long you me glad to must long hem, you me strong more you me free long hem, you me brought everyone.